Bonjour. Nous en avons tous un, vous comme moi, jeunes ou vieux, et nous l'avons depuis notre naissance et nous l'aurons encore à l'heure de notre départ. De quoi est-ce que je vous parle, vous demandez-vous? Eh bien, je vais vous donner un indice. Les scientifiques et les sportifs disent que là se situe le centre de gravité, le point d'équilibre de l'être humain. Vous avez trouvé de quoi il s'agit? Bon, alors un dernier indice. La chose en question se trouve plus ou moins à mi-hauteur de chacun de nous. Voilà, je crois que vous avez deviné. Il s'agit bien de notre nombril, ce que certains appellent aussi notre bourrillon, à ne pas confondre évidemment avec le bourgeon du même nom qui est situé à la base d'un sarment de vigne. Bref, aujourd'hui, je veux vous parler de notre nombril. Or, voyez-vous ce qu'il y a de paradoxal avec cette partie de notre anatomie, c'est que le nombril symbolise d'une part notre ego, notre personne, mais qu'il évoque aussi ce cordon qui nous a un jour reliés et nourris, ce cordon de vie et d'amour. Alors, sans que nous en soyons forcément obsédés ou qu'il soit le centre de nos préoccupations, le nombril nous rappelle que nous sommes tous nés d'une rencontre et destinés à la relation. Mes amis, cela parce que l'amour de soi et l'amour de l'autre sont notre équilibre véritable. Au chapitre 12 de l'évangile de Marc que nous venons d'entendre, les pharisiens adressent à Jésus une question piège. « Où, demande-t-il, se situe le centre de gravité de la Torah ?» Autrement dit, quel est le principe qui résume et qui dépasse tous les autres. Selon la tradition juive, la Torah, la loi, comprenait 613 commandements. Alors, lequel choisir? Lequel le plus important? En fait, en lui posant cette question piège, les pharisiens, les scribes, forcent Jésus à donner une impossible réponse, un peu comme si on demandait « Mais il faut aimer davantage son papa ou sa maman ?» Familiers des évangiles, les chrétiens connaissent la réponse de Jésus. Il s'agit d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Trois dimensions dans deux commandements pour l'unique critère et ce qui donne sens à toute notre vie, l'amour. Facile à dire, pourra-t-on me rétorquer, et certains diront qu'il n'y a rien de spécifiquement chrétien dans cette réponse. Vous avez raison, cette règle d'or se retrouve dans tous les grands systèmes philosophiques et religieux du monde. Toutefois, ici, il ne s'agit pas simplement de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, mais de mobiliser activement tout notre être, cœur, âme et esprit. Et on pourrait ainsi dire que, contre l'amour de la règle des pharisiens, Jésus nous invite à suivre la règle de l'amour, la règle d'amour. Car c'est bien à l'amour, dira-t-il plus tard à ses disciples, que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Avec bien d'autres, nous avons donc choisi chez nous cet été, durant un mois, de nous concentrer sur cet objectif et ce faisant, chercher à trouver notre joie en Dieu en approfondissant quotidiennement ces deux commandements et ces trois dimensions qui sont donc le centre, le vrai sens de gravité de notre existence humaine et spirituelle. Mais comprenons bien. Il ne s'agit pas de croire en Dieu au détriment de l'homme. Cela porte de nos jours le triste nom de fanatisme, d'intégrisme ou de sectarisme. Et à ce propos, la première lettre de Jean nous rappelle que si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et n'aime pas son frère, c'est un menteur. Mais il ne s'agit pas non plus ici de croire en l'humain au détriment de Dieu. Une dérive qui prend aujourd'hui les formes de l'individualisme, de l'indifférence des autres, ou pire encore du narcissisme. En ouvrant notre série estivale, il faut donc commencer par dire que le commandement d'amour évite ces dérives et met en équilibre l'amour de soi, de l'autre et de Dieu. Pour aimer Dieu et son prochain, il faut donc commencer par s'aimer soi-même. Oh, pas de manière nombriliste et narcissique, bien entendu, mais en laissant le regard bienveillant de Dieu se poser sur chacun de nous et descendre en nous. S'aimer soi-même, au sens de l'Évangile, c'est en fait se désencombrer de notre égoïsme pour pouvoir aimer en retour de manière équilibrée, sans s'agripper. Peut-on, en effet, aimer l'autre si on n'est pas capable de faire en nous de la place pour lui? En somme, il s'agit de se déposséder de la volonté de vouloir posséder sa vie. S'aimer soi-même, n'est-ce pas accepter que nous sommes aimés de Dieu tel que nous sommes, plutôt que de vouloir conserver ce que nous ne sommes plus ou que nous voudrions être? N'est-ce pas accepter son âge, son corps, ses limites? Finalement, s'aimer soi-même, n'est-ce pas découvrir que son centre de gravité est en lui, l'autre, avec un grand A majuscule, que ce que nous sommes, nous le devons à celui qui nous accompagne jour après jour et qui nous redit à chacun « Je t'aime et j'ai donné ma vie pour toi ». Et puis, dans la foulée, s'aimer soi-même, n'est-ce pas alors découvrir que son centre de gravité est aussi en l'autre, l'autre avec cette fois un A minuscule. Maintenant, hélas, combien d'entre nous n'ont-ils pas cru devoir aimer, que ce soit leur conjoint, leur enfant, leurs proches, au détriment de ce qu'ils étaient? Pour eux et pour chacun de nous, cette rencontre de l'Évangile de Marc, ce récit ici de Jésus avec les pharisiens est donc libérateur. Car l'amour, qu'il soit d'affection, d'amitié ou de respect, n'oppose pas l'amour de l'autre à l'amour de Dieu et à l'amour de soi. Mes amis, c'est bel et bien l'amour reçu qui nous donne la confiance d'aimer et d'être aimé. Mais reprenons. Après avoir expliqué à ses disciples que le royaume de Dieu est en somme un chemin de salut spirituel, Jésus, à la demande d'un scribe, fait le lien entre ce royaume de Dieu et le cœur de la loi juive, la Torah. Et ici, Jésus en cite deux passages. D'abord, le Shema Israël, c'est-à-dire la loi fondamentale de la foi juive, rappelée en Deutéronome 6, verset 5. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Et puis, Jésus y associe le commandement de l'amour du prochain qui se trouve, lui, dans le livre du Lévitique au chapitre 19. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dès lors, mes amis, pour bien comprendre la force de ce double commandement et de ces trois dimensions dans la bouche de Jésus, il nous faut en préciser les trois directions que Jésus met ainsi en avant. D'abord, écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Oh, cette phrase pourrait vous apparaître anodine, comme une simple introduction, une simple information sur Dieu pour signaler qu'il n'y en a pas d'autre. Mais en réalité, c'est déjà bien un commandement. Il s'agit de réaliser que Dieu est notre Seigneur, le maître de notre vie et la source de notre véritable bonheur et de la réussite de notre existence. Pour cela, il faut bien sûr s'arrêter, prendre le temps de relire notre vie à la lumière de cette question qu'il nous pose encore aujourd'hui. Dieu est-il réellement le seul Seigneur dans ta vie, dans ma vie? Ou bien laissons-nous, avant lui, de nombreuses choses être prioritaires par rapport à Dieu, le confort, l'argent, le pouvoir, l'honneur, la sécurité, que sais-je? Il ne s'agit donc pas là de la part de Jésus d'un commandement moralisateur ou culpabilisateur, comme pour réprimer nos désirs terrestres, mais d'une vraie invitation à faire en sorte que ce que nous sommes, ce que nous possédons et ce que nous vivons soit vraiment au service de l'amour. Tant mieux si quelqu'un désire prendre des responsabilités dans la communauté. Tant mieux si quelqu'un a le don de diriger, de faire ceci ou cela. Tant mieux si quelqu'un a de l'argent et sait le faire fructifier. Mais tout cela, à condition que ce ne soit pas pour son unique profit, mais pour faire le bien autour de lui. En d'autres mots, pour aimer. Pour cela, il faut donc mettre Dieu en premier. Et puis, Jésus rappelle alors l'essentiel. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Autrement dit, mettre le Seigneur à la première place dans sa vie, c'est toujours le résultat d'un choix et d'un combat spirituel. D'où l'insistance, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Aimer, ce n'est pas seulement une attitude passive qui consiste à se laisser envahir par un sentiment amoureux ou d'affection. C'est un engagement profond qui est donc ici exprimé par quatre éléments, le cœur, l'âme, l'esprit et la force. Et vous le savez sans doute, le cœur dans l'Évangile, c'est le siège de la volonté et des projets. Aimer Dieu de tout son cœur, c'est en somme avoir la disposition intérieure pour être disponible pour accueillir et aimer Dieu, pour écouter et mettre en pratique sa parole. L'âme, maintenant dans l'Évangile, c'est le siège des désirs, du caractère et de la personnalité. Aimer Dieu de toute son âme, c'est s'engager de toute sa personne en engageant ses désirs. Ensuite, l'esprit, c'est ce qui passe par l'intelligence. Aimer Dieu de tout son esprit, c'est chercher à comprendre Dieu et son plan d'amour pour chacun de nous et pour tous les hommes. Enfin, la force dans l'Évangile, ce sont bien sûr toutes les capacités physiques, mais aussi psychologiques, que l'on engage pour aimer Dieu. C'est prendre sur soi, faire par exemple l'effort de se lever plus tôt le matin pour prendre le temps de lire la Bible et prier, pour rencontrer Dieu, pour placer sa journée devant lui, pour la vivre ensuite avec lui et pour lui. C'est aussi prendre le temps d'accepter de rencontrer les autres. Bref, aimer Dieu, ce n'est pas seulement un sentiment que l'on ressent, mais c'est d'abord un choix, une décision, c'est choisir d'intégrer sa relation avec Dieu comme la source bienfaisante de notre vie, en engageant notre volonté, notre être profond, notre intelligence et nos forces vives. Alors, voici le complément indispensable que nous rappelle Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'on comprend ici que le lien que Jésus fait entre cet amour de Dieu et l'amour du prochain nous gardent de tout idéalisme ou de tout nombrilisme dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de véritable amour de Dieu sans amour du prochain, et il n'y a pas de véritable amour du prochain sans amour de Dieu. Il y a un lien indissociable entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est le cœur de l'Évangile. C'est dire, en d'autres termes, que l'amour du prochain est le lieu de vérification de l'amour de Dieu. Celui qui dit « j'aime Dieu » alors qu'il a de la haine contre son frère ou sa sœur est un menteur, nous est-il déclaré en 1 Jean 4, verset 20. Celui ou celle qui pense être un chrétien engagé, mais qui n'accepte pas de passer du temps avec ses frères et sœurs, de les supporter dans le sens de porter avec eux ou avec elles, ne peut pas prétendre être fidèle au Christ. Et inversement, il est vrai qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour aimer les autres. Mais l'Évangile nous montre que l'amour du prochain, pour se déployer au maximum, comme un don mutuel exercé de tout cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force, a véritablement besoin d'être enraciné en Dieu et nourri de la relation avec lui jour après jour. Voilà, mes amis, s'il en est ainsi, profitons de cet été pour en approfondir les différentes manières d'aimer. Car lorsque l'amour sera tendresse dans notre vie, aimer Dieu de tout son cœur, tout en s'aimant soi-même, consistera encore à trouver en lui notre point d'appui. Et puis, lorsque l'amour sera amitié dans nos rencontres, aimer Dieu de toute notre âme et s'aimer soi-même consistera aussi à faire en nous de la place pour l'être aimé à nos côtés, en réservant une même attention à son épanouissement, tout autant qu'au nôtre. Enfin, lorsque dans un premier temps peut-être la fraternité nous semblera impossible, s'aimer soi et aimer Dieu de tout son esprit reviendra à prendre le chemin du respect et de la prière qui remet dans les mains de Dieu tous ceux et toutes celles que nous n'avons pas encore ou plus du tout la force d'aimer, pour que Dieu les bénisse indépendamment de nous et non au détriment de ce que nous sommes. Nous avons donc un mois pour aimer, l'essentiel, 30 jours devant nous maintenant pour que cette règle d'amour, et non l'amour de la règle, soit notre guide, notre équilibre, notre centre de gravité, notre partage et notre joie. Donc pour aujourd'hui, demain et jusqu'au soir de notre vie. Soyez bénis. Amen.